présente maintenant l'intervenant de ce soir. Il s'agit du Bernard Dujon, qui est professeur à l'Université Paris 6 et à l'Institut Pasteur, et qui est directeur scientifique à l'Institut Pasteur. Il est né en 1947. Il est chercheur à l'unité de génétique moléculaire des levures, département génome et génétique à l'Institut Pasteur. Son parcours est un parcours classique de chercheur et d'enseignant en sciences. Il est docteur en sciences. Il a été d'abord chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, puis maître de conférence à l'École polytechnique. Depuis 1983, il est professeur à l'Université Paris 6, Pierre et Marie Curie. Et depuis 1993, aussi à l'Institut Pasteur à Paris. Depuis, il est aussi membre de l'Académie des sciences depuis 2002. Il est spécialiste de l'étude du génome des levures. Il a écrit, comme toutes les personnes qui vont intervenir ici, de très nombreux articles dans les revues nationales et internationales scientifiques les plus reconnues. Et il est aussi l'auteur du livre, cette fois-ci plus de vulgarisation, « Comment évoluent nos gènes » aux éditions Le Pommier, Paris 2005. Donc je vais lui céder la parole pour 50 minutes ou un peu plus, une heure et au-delà. Et ensuite, comme d'habitude, vous pourrez poser les questions que vous avez envie de lui poser. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Michaud. Bonsoir à tous. La question qui est posée dans ce cycle de conférences, évidemment, interpelle tout le monde. Qu'est-ce que la vie est une question fondamentale. Et je voudrais remercier les organisateurs d'avoir eu la pertinence, en déclinant cette question sous la forme de qu'est-ce que l'on connaît des génomes, en déclinant cette question, de lui donner déjà une partie des réponses. Alors je vais essayer ce soir de vous illustrer un peu ces réponses, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on connaît des génomes actuellement et en quoi ce que l'on connaît sur les génomes nous illustre finalement qu'est-ce que c'est que la vie. Alors quand on pose cette question, on peut se demander finalement quelle est la différence existe-t-il entre un organisme vivant, par exemple une petite souris comme c'est sur mon image, et un objet inanimé, par exemple un nuage. Et quand on pose cette question en termes scientifiques, on vient très vite perplexe, parce qu'en fait ce sont les mêmes atomes, ou à peu près, qui constituent les deux éléments. C'est de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du carbone, dans les deux cas. Et ce sont les mêmes principes physico-chimiques qui régissent les deux entités. En réfléchissant un peu plus, on s'aperçoit que les souris, comme évidemment vous le savez, ont un père et une mère, qui eux-mêmes avaient des pères et des mères, et donc dans la lignée des souris, il existe une certaine continuité, une histoire. Et on peut définir la vie par rapport à l'inanimé comme étant les mêmes principes physico-chimiques, plus l'histoire, mais plus aussi des fonctions. La souris ne vit que parce que, par exemple, elle respire ou parce que son cœur bat. Donc il y a un certain nombre de fonctions qui doivent être réalisées. Sans ça, la souris ne peut pas vivre. Par comparaison, si je prends mon nuage, toujours, par rapport aux anciens nuages qui existaient au même endroit, il n'y a aucune histoire. Les nuages sont reformés, c'est un endroit donné, en fonction de la température, de la pression, de l'humidité, d'autres choses de ce type, mais certainement pas en fonction d'un lien qui lierait un ancien nuage à un nouveau nuage. Donc on va arriver à la conclusion que la vie, finalement, c'est le fil de l'histoire et des fonctions. Et le fil de l'histoire et des fonctions, c'est précisément le génome. Alors, le génome est un mot que l'on entend souvent actuellement, mais ce n'est pas un mot nouveau. Il a été introduit pour la première fois en 1920 par Hans Winkler, qui était un botaniste à Hambourg. Et il désignait l'ensemble, et ce qui est important, c'est le mot ensemble, désignait l'ensemble des déterminants héréditaires, qu'on appellerait aujourd'hui des gènes, des déterminants héréditaires propres à une espèce donnée. En langage actuel, on dirait que le génome, c'est l'ensemble de l'information héréditaire d'un organisme. Cette information est présente en totalité dans chacune des cellules de l'organisme. Et lorsqu'une cellule se divise, cette information est copiée et transmise aux deux cellules filles. Donc nous n'avons pas en nous-mêmes un génome, mais autant de génomes que nous avons de cellules, plusieurs milliers de milliards. Le génome contient les instructions nécessaires au développement, au fonctionnement, au maintien de l'intégrité et à la reproduction des cellules et de l'organisme. Alors, on sait depuis 1944 que ce génome est constitué par une seule molécule, que l'on appelle ADN, pour acide désoxyribonucléique, et que cet ADN est le support de cette hérédité. Et on sait depuis 1953 que la structure et les propriétés de la molécule d'ADN expliquent cette dualité de son rôle, c'est-à-dire à la fois une transmission héréditaire de génération en génération et en même temps les instructions nécessaires pour le fonctionnement de la cellule. Alors, l'ADN est une molécule simple. En fait, c'est un polymère de sucre phosphorylé, comme vous avez ici sur la gauche, un sucre avec un phosphate dessus. Ce sucre s'appelle le désoxyribose et c'est pour ça qu'on appelle l'ensemble acide désoxyribonucléique. Sur chaque sucre est liée ce qu'on appelle une base azotée, et ces bases azotées sont au nombre de 4 possibles, 2 pyrimidines, la thymine et la cytosine qu'on symbolise souvent en T et C, et 2 purines, l'adénine et la guanine qu'on symbolise souvent en A et G. Sur chaque sucre, il y a une des 4 bases. La molécule d'ADN qui est symbolisée ici en hélice porte donc en elle-même, par sa structure même, 2 sortes d'informations. Une première information, si cet ordinateur fonctionnait, bon, voilà, je suis désolé. Une première information qui est représentée par la complémentarité des bases azotées, c'est-à-dire le fait que la base T et la base A se lient entre elles, le fait que la base G et la base C se lient entre elles. Cette complémentarité des bases est ce qui permet la reproduction de la molécule d'ADN. Les 2 copies filles de molécules d'ADN sont identiques à la molécule mère et donc identiques entre elles, et c'est ce qui permet la reproduction des organismes. La deuxième type d'information qui est dans cette même molécule, c'est la succession de l'ordre des bases azotées le long de la chaîne. C'est ce qu'on appelle la séquence des nucléotides. Ça, c'est l'ordre dans lequel ces nucléotides se suivent. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'information génétique, ou le message, si l'on veut, qui est donné par cette succession de nucléotides le long des brins de l'ADN. Et toute la génomique va naître à partir du moment où l'on est capable de déterminer quelle est cette succession des bases le long de toutes les molécules d'ADN de tous les chromosomes. Alors juste un mot avant d'entrer dans le vif du sujet. Le nombre de combinaisons possibles de séquences de nucléotides grandit comme la puissance du nombre 4. Donc quand la séquence augmente d'un nucléotide à la fois, le nombre de combinaisons augmente selon une règle de puissance. 4 puissance 50, c'est un nombre qui est beaucoup plus grand que le nombre de particules dans tout l'univers. Ça veut dire que un gène aussi petit que 50 nucléotides, et c'est minuscule pour un gène, a un nombre de combinaisons qui est plus grand que toutes les particules de l'univers. Ça veut dire qu'il ne peut pas exister simultanément dans l'univers toutes les formes possibles de la vie. Et deuxièmement, le nombre de formes possibles de la vie est illimité par rapport à ce qui est possible, en particulier sur la planète Terre. Alors comment est-ce que cette information se transfère en fonction? C'est ça qui finalement va être le fil de notre discussion ce soir. Alors on sait depuis 1953 quels sont les grands principes qui permettent à cette information de donner une fonction à la cellule et puis à l'organisme. La molécule d'ADN, comme je l'ai illustré sur la précédente diapositive, cette molécule d'ADN peut se recopier indéfiniment, une molécule donnant 2, 2 donnant 4, etc. Cette molécule d'ADN aboutit, par son information interne, aboutit à la formation de protéines. Et on savait ça dès 1953, et on savait aussi que cette transfert d'information se faisait par l'intermédiaire de quelque chose qu'on appelait un intermédiaire, qui est une molécule d'ARN, sur lesquelles on reviendra. Cet ordinateur est particulièrement lent. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon. Voilà. Donc le lien entre le gène et la fonction se fait entre l'ADN, acide désoxyribonucléique, une protéine, qui est un ensemble d'acides aminés, un lien d'acides aminés, qui lui-même porte une structure secondaire, comme c'est symbolisé sur ce schéma. On passe de cette information d'un langage à 4 lettres, l'ADN et aussi l'ARN, on verra, un langage à 20 lettres, les acides aminés, mais ça, on sait depuis très longtemps comment ça se fait, puisqu'il existe ce qu'on appelle le code génétique. Et je pense que la plupart des gens ont entendu parler de ce code génétique, qui est le code des équivalences qui permet à chaque petite séquence d'ADN de donner un acide aminé en face. Donc on a cette vision d'une relation gène-fonction, un gène, une fonction. Vision que beaucoup de gens ont encore aujourd'hui. Cette vision n'est pas fausse, elle est simplement très caricaturale par rapport à la réalité. Donc on voit un chromosome, et puis sur ce chromosome, on voit le long de la molécule d'ADN, on voit des gènes qui se suivent les uns derrière les autres, et on pense aisément que le gène numéro 1 va déterminer la fonction numéro 1, le gène numéro 2, la fonction numéro 2, etc. Ça veut dire qu'une mutation dans le gène numéro 1 va altérer la fonction numéro 1, mutation dans le gène numéro 2 altérerait la fonction du gène numéro 2. Donc cette notion de 1 à 1 joue un rôle très important et elle est encore présente dans l'esprit de beaucoup de gens à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de vous montrer qu'en fait la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Avant de rentrer dans ces discussions, je pense qu'il faut qu'on vous donne quelques éléments sur la taille des génomes. Le génome de la bactérie Escherichia coli contient 4300 gènes qui codent pour des protéines, pour à peu près 4 600 000 nucléotides. Le génome de la levure, Saccharomyces cerevisiae, contient à peu près 5800 gènes pour 12 millions de nucléotides. Celui d'un petit ver, qui est indiqué ici, le Caenorhabditis elegans, contient un peu moins de 20 000 gènes pour presque 100 millions de nucléotides. La drosophile, 14 000 gènes, 160 millions de nucléotides. L'homme contient 23 000 gènes à peu près pour un peu moins de 3 milliards de nucléotides. Donc vous voyez que le nombre de gènes augmente des organismes les plus simples aux plus complexes, mais pas d'une façon considérable, d'un facteur 4 ou 5 fois. Par contre, la taille des génomes, elle augmente beaucoup plus. Lorsque l'on s'intéresse au monde végétal, on voit que l'arabette, qui est le système modèle des biologistes végétaux, contient à peu près 28 000 gènes, la vigne à peu près 30 000, c'est du même ordre de grandeur, pour un génome de 115 millions de nucléotides ou presque 500 millions de nucléotides. L'homme n'est pas du tout en haut de la pyramide de la complexité. En fait, il existe plusieurs espèces, beaucoup d'espèces, qui ont des génomes qui sont beaucoup plus grands que le génome humain. Ici, on a une petite salamandre. Ici, on a la fritillière des jardins. Ici, on a une plante qui s'appelle psilotome, que l'on trouve dans les jardineries. Ces organismes ont des génomes qui sont 100 milliards de nucléotides, 250 milliards de nucléotides, c'est-à-dire en gros 40 à 100 fois plus grand que le génome humain. Et le champion toute catégorie jusqu'à présent, avec 670 milliards de nucléotides, c'est-à-dire en fois à peu près 300 fois le génome humain, ce n'est même pas un animal ou une plante, c'est un organisme unicellulaire, c'est une amibe qu'on ne voit qu'au microscope. Donc en fait, on voit sur ce schéma que la taille du génome, d'abord, peut être immense, deuxièmement, est sans relation directe avec la complexité de l'organisme. Évidemment, j'ai mis des points d'interrogation ici pour tous ces organismes, parce que tous les organismes qui sont en dessous de cette ligne sont des organismes pour lesquels nous avons les séquences complètes. Les organismes qui sont au-dessus de cette ligne sont des organismes pour lesquels nous n'avons pas les séquences complètes, parce qu'évidemment, 600 milliards de nucléotides, c'est beaucoup de travail pour avoir le résultat. Alors, j'ai repris ici sur cette échelle logarithmique les tailles des génomes pour vous montrer simplement qu'ils varient par plusieurs ordres de grandeur, depuis ceux des virus qui sont de l'ordre de dizaines de milliers de nucléotides, ceux des bactéries qui sont de l'ordre du million de nucléotides ou des champignons, et puis les plantes, les animaux, les amibes qui ont des génomes qui peuvent varier entre 100 millions de nucléotides et à peu près 1000 milliards de nucléotides, tout en restant des choses similaires. Alors ceci, c'était connu depuis longue date sous le nom de paradoxe de la valeur C, C étant la complexité du génome. Et on savait que les génomes sont trop grands pour le nombre de protéines qu'ils codent. On savait que la complexité des génomes n'est pas en relation directe avec la complexité des organismes et le nombre des gènes. Et on savait que les génomes d'espèces proches peuvent différer considérablement en taille. Alors, je vous ai mis ces chiffres, non pas pour vous les connaissiez par cœur, parce que ce n'est pas ça l'importance, mais pour illustrer un petit problème technique qui illustre comment sont nos connaissances sur les génomes aujourd'hui. Si les génomes des organismes varient entre quelques millions et quelques milliards de nucléotides, les méthodes de séquençage, elles, nous permettent de lire des petits fragments qui font quelques centaines de nucléotides. Et donc, évidemment, pour arriver à déterminer la séquence d'un génome, on va fractionner l'ADN qui nous intéresse en petits fragments compatibles avec ce que l'on sait déterminer en termes de séquence. Évidemment, plus le génome sera grand, plus il y aura de petits fragments. Deuxièmement, par une astuce complexe de biologie moléculaire qu'il n'est pas utile d'expliquer, on va fabriquer des copies du fragment, de ces fragments que l'on veut séquencer. Ces copies partent toutes d'un point identique, et puis elles s'arrêtent à différents niveaux qui dépendent des nucléotides que l'on trouve sur la route. Ensuite, on va ordonner ces copies selon leur taille, et puis, par un processus automatique de détection de fluorescence, on va reconstituer un petit bout de séquence qui est la succession des nucléotides sur le segment qui nous concerne. Comme je l'ai dit, ces petits bouts de séquence font quelques centaines de nucléotides. Donc l'étape immédiate qui va suivre est une étape purement informatique. C'est ce qu'on appelle l'assemblage, qui consiste à demander à l'ordinateur de remettre en place, en utilisant les chevauchements partiels, de remettre en place tous les petits bouts pour former ce que l'on appelle un contigue. Le contigue, c'est la somme, disons, informatique de tous les petits bouts de séquence dont on dispose. Ça veut dire qu'à tout moment, quand on séquence un génome, on va avoir non pas la lecture complète d'un chromosome, mais une succession de contigues, plus ou moins bien fournies et séparées les uns par rapport aux autres. Plus on va déterminer de séquences nouvelles, et évidemment, plus la séquence va se terminer, plus les trous vont se boucher. Mais évidemment, plus le travail va être intense et plus le coût va être élevé. Pour fixer les idées simplement, j'ai donné trois exemples. Un, avec un nombre de lectures égal à 3 fois la taille du génome, puis 6 fois, donc il en faut 2 fois plus, ou 12 fois. Et donc, en fait, on arrive à plusieurs types de séquences disponibles dans les bases de données. Des séquences qu'on appelle des séquences exploratoires, donc qui ne sont pas finies, qui ont des très nombreux contigues de petite taille, mais qui sont très utiles pour étudier les variations polymorphiques, la biodiversité, etc., et que l'on peut obtenir avec un effort relativement modeste. Des séquences que l'on appelle des ébauches, ou drafts en anglais, qui ont encore de nombreux contigues de taille variable, mais qui sont très utiles pour les premières analyses globales, donc avec 2 fois plus d'efforts, et encore avec 2 fois plus d'efforts, on va avoir des séquences dites finales, avec très peu de contigues, qui vont être très utiles pour les analyses fonctionnelles. Donc retenez qu'il existe plusieurs catégories, plusieurs états de finition des séquences que l'on a à notre disposition. On peut aller plus loin et finir complètement la séquence par des étapes assez laborieuses qui consistent à rabouter les différents contigues sous forme d'une ossature et finalement remplir tous les trous, vérifier les zones de mauvaise qualité, etc. pour finalement avoir une séquence complète, finie, de haute qualité qui va être déposée dans les bases de données. Et qui va servir ensuite à annoter, c'est-à-dire en fait à identifier le long de cette séquence les limites des gènes, les éléments de contrôle, tout autre élément du génome, et possiblement suggérer les fonctions des gènes à partir des comparaisons avec ce qui est déjà connu. Nous avons en France un centre national de séquençage qui s'appelle Génoscope, qui est établi à Évry, et qui rend un très grand service à la communauté scientifique, parce qu'évidemment, toutes les étapes que j'ai racontées très rapidement avant sont des étapes qui supposent un niveau de robotisation et d'informatique qui n'est pas accessible au simple laboratoire. Grâce à cet outil, la France se classe finalement très honorablement dans le monde pour tous les projets génomes, puisqu'elle est en 4e position derrière le Japon, l'Angleterre et les États-Unis. Donc ce classement est tout à fait honorable, mais notez quand même la très grosse différence entre les États-Unis et le reste du monde. En fait, aujourd'hui, la génomique est un quasi-monopole américain. Et il faut savoir que, pour des tas de raisons, dont le fait que la Commission européenne ou l'EMBO n'ont pas finalement très bien compris l'importance de la génomique, beaucoup de pays européens actuellement sont, disons, sont petits par rapport à tout ce qui est fait aux États-Unis. Alors, les premiers génomes séquencés n'étaient pas les génomes humains. Le génome humain était évidemment une chose très importante à faire et dans toutes les discussions, mais pendant qu'on discutait et commençait sur le génome humain, d'autres génomes ont été séquencés. Dès 1995, deux petites bactéries dont les génomes sont de petite taille, hein, de l'ordre de 1 à 2 mégabases. L'année suivante, deux autres bactéries. Puis, ce qu'on appelle une archébactérie, donc c'est un autre type de micro-organisme dont les génomes sont toujours de petite taille, et puis évolue très vite en 1996 la levure de boulangerie, en fait, qui était le premier eucaryote séquencé avec un génome d'environ 12 millions de nucléotides. Deux ans après, le premier animal, donc premier organisme multicellulaire, avec un génome de presque 100 mégabases, était séquencé, et en 2000, la première plante, l'Arabidopsis, la drosophile, et est venue l'annonce internationale que le génome humain était terminé, avec évidemment une taille beaucoup plus considérable, presque 3 milliards de paires de bases. En fait, il s'agissait d'une première ébauche, donc une séquence non finie. Elle était 90%, il y avait encore 150 000 trous, donc c'était quand même un nombre assez considérable, et il a fallu 4 ans de plus pour arriver à cette deuxième ébauche, qui cette fois-ci couvre presque la totalité du génome, avec un nombre de trous beaucoup plus petit. Depuis cette année, des individus ont été séquencés. Le génome humain de première génération est un génome moyen de plusieurs personnes. Et maintenant, on en est au point d'avoir des séquences d'individus. Et il existe un projet de 1000 génomes, un projet de déterminer la séquence d'un millier de personnes à travers le monde pour voir le polymorphisme de la population humaine. Alors aujourd'hui, si l'on prend les bases de données correspondantes, on s'aperçoit qu'il y a plus de 800 génomes, plus de 800 espèces dont les génomes sont complets, sont publiés, et puis près de 3000 projets en cours, que ce soit des génomes bactériens, des génomes eucaryotes, des génomes d'archéa ou des projets de métagénomique. Évidemment, toutes ces données finissent dans des bases de données. J'ai cité les trois plus fréquemment utilisés, l'IMBL EBI qui est installé en Angleterre et qui est une base de données européenne, et le NCBI qui est installé aux États-Unis, qui est une base américaine, et puis UniProt qui est un consortium international de données sur les séquences des protéines qui sont déduites à partir de ces génomes. En février 2008, ces bases de données contenaient 28 millions de fichiers et correspondant à peu près 108 milliards de nucléotides. C'était en février, ces chiffres sont à coup sûr complètement dépassés aujourd'hui, sachant que l'on produit aujourd'hui plusieurs milliards de nucléotides nouveaux pratiquement chaque jour dans le monde entier. Alors pourquoi séquencer les génomes? Alors, pour différentes raisons, nombreuses, et ceci explique cette accélération. Les biotechnologies, des microbes importants pour les fermentations, bioconversions, pour les additifs alimentaires, les productions d'enzymes, etc. Pour l'environnement, souvent des micro-organismes qui sont importants pour les cycles naturels, pour les traitements, les pesticides, pour l'énergie même, ou les détergents, le traitement des eaux, détoxification des sols. Pour des problèmes d'alimentation, les produits laitiers, les fromages, les suppléments diététiques, toutes les fermentations alimentaires, on est très souvent dans le monde des micro-organismes ici. Pour l'agronomie, les animaux, les plantes, leurs pathogènes, leurs résistances, leurs sensibilités, etc. Pour la biologie de la mer, la pêche, l'aquaculture, les algues, le plancton, je crois que vous aurez une conférence sur ce sujet. Pour l'industrie pharmaceutique, les producteurs de vitamines, d'antibiotiques, d'acides aminés, acides lactiques, etc. Évidemment, des problèmes de médecine et santé humaine, les pathogènes, les problèmes de cancer, les vaccins, les infections nosocomiales, les insectes vecteurs, la liste pourrait s'allonger facilement. Et finalement, il ne faut pas l'oublier, pour des problèmes de connaissance. Les génomes sont un magnifique moyen pour faire l'instruction des étudiants, l'éducation, et puis on peut étudier l'évolution, l'origine de la vie, les arbres de la vie, comprendre les mécanismes fondamentaux, la biodiversité, etc. Et donc il y a de nombreuses raisons qui poussent à séquencer les génomes, et c'est pour ça que ces choses accélèrent. Et par rapport aux quelques, disons, génomes premiers qui ont figuré dans parmi les génomes séquencés, on a vu ces quelques dernières années une explosion d'organismes dont vous avez ici quelques illustrations, que ce soit des algues vertes, des petits protozoaires ciliés, ici ce sont des euglaines, ici ce sont des aigles rouges, ici c'est l'agent de la malaria, etc. Et il y en a comme ça, comme je vous l'ai dit, plusieurs centaines. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer immédiatement une chose, c'est que l'on voit dans quel ordre ces différents types d'organismes s'organisent, se classifient les uns par rapport aux autres. Alors j'ai mis ici, pour illustration, l'arbre du vivant qui vient de Ernst Haeckel, fin 19e siècle. Et il était très parlant, puisque Ernst Haeckel distinguait les plantes, les animaux, et puis au milieu, un ensemble d'organismes plus ou moins unicellulaires qu'il appelait les protistes. Beaucoup de gens, d'ailleurs, pensent dans ces termes aujourd'hui, parce que c'est facile de penser de passer dans ces termes les plantes, les animaux, et puis un ensemble au milieu de protistes. Notez au passage que les champignons sont parmi les plantes. D'ailleurs, on les trouve dans les cours de botanique, qui sont là. Les bactéries étaient plus ou moins mal identifiées à la racine de ces protistes, et évidemment, l'homme, comme il se doit, trônait tout à fait en haut de l'arbre des animaux. Bon. La réalité aujourd'hui, après les génomes, est très différente. L'évolution, en réalité, s'est passée en mettant les animaux et les champignons sont très proches l'un de l'autre, dans ce qu'on appelle des opistocontes. Les plantes sont associées aux algues rouges vertes dans ce monde particulier, mais pas aux algues brunes qui, elles, se retrouvent ici, qui sont associées aux diatomées et puis à d'autres organismes que pendant longtemps on pensait être des champignons, mais qui n'en sont pas. Et puis on retrouve ici, par exemple, des protozoaires ciliés, mais qui sont associés à l'agent de la malaria. Et puis on retrouve des euglaines qui sont associées aux trypanosomes, et puis ici des amibes, etc. Donc vous voyez immédiatement, peu importe les détails, et vous voyez en fait que le monde est plus compliqué qu'on l'imaginait, et surtout qu'on est en train de mettre en place les éléments. En quelque sorte, la biologie en est, disons par comparaison, est un peu dans l'état actuel ce qu'était la chimie à la fin du 19e siècle, quand les chimistes classaient les atomes par leur masse et leurs propriétés, et ont abouti à la classification périodique des éléments, à la table de Mendeleïev. En remettant les organismes là où ils appartiennent vraiment, la biologie est en train de se préparer à faire une certaine synthèse qui évidemment n'était pas possible quand ces organismes n'étaient pas mis à la bonne place. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans les génomes? Alors, évidemment, on apprend le catalogue complet des gènes et des autres éléments des génomes. On apprend que beaucoup de gènes n'ont pas de fonction inconnue. Et on apprend aussi qu'il existe des processus dynamiques de modification du génome. Alors, avant de rentrer là-dedans, il vous manque un élément pour comprendre le raisonnement. Le dogme central de la biologie moléculaire fait le lien entre le gène et la fonction, un lien biunivoque. La réalité a commencé à être un peu plus complexe dès les années 70, quand on s'est aperçu que les ARN, qui sont ces molécules ici, ont des propriétés particulières qui étaient sous-estimées dans les années 50. En particulier, les ARN peuvent redonner des ADN, et deuxièmement, les ARN subissent de nombreuses réactions d'épissage, d'édition, etc. Les ARN sont ces molécules qui sont doués à la fois de la capacité de transporter l'information génétique et en même temps de réaliser la catalyse chimique. Ce sont à la fois des enzymes et ce sont à la fois des gènes. C'est les deux en même temps. Et donc entre le gène et la fonction du gène, l'intermédiaire en fait n'est pas du tout passif. Il est complètement actif et il va déterminer beaucoup de choses qui sont plus compliquées que ce que l'on pense dans le schéma initial. Alors les ARN, simplement pour illustrer, sont chimiquement identiques aux ADN, à l'exception d'une seule chose, il existe un oxygène supplémentaire qui est d'ailleurs normal sur ce carbone par rapport à celui-ci. En fait, on pense simplement que l'ADN est simplement un mutant de l'ARN qui est venu plus tard. Les propriétés des ARN sont telles que les transcrits des gènes vont, comme c'est symbolisé ici, vont subir de nombreuses réactions, dont par exemple, les réactions d'épissage des introns, comme marqué ici, réactions assez complexes, comme montrent ces flèches, qui font qu'à partir d'une molécule d'ARN qui est point à point qui est point à point collinaire avec le gène, on va former un nouvel ARN qui, lui, va porter la phase codante pour la synthèse de la protéine. Et puis, on va éliminer les introns intermédiaires. À nouveau, un problème là. Bon. Donc, ces ARN portent en eux la capacité de se réarranger, plus la capacité de faire des régulations qui ne sont pas de nature directe expression du gène. Ça veut dire que lorsque nous, on va lire, par le séquençage, on va lire le génome ici, on va voir non pas un gène comme on l'attend, mais une succession d'éléments interrompus, parfois très petits, très difficiles à reconnaître, et qui correspondent aux différents produits du gène, qui peuvent être des protéines, mais qui peuvent être aussi des ARN, et le tout étant mélangé l'un avec l'autre. Ces ARN ont aussi la capacité de faire évoluer les génomes, parce qu'ils participent, comme par leur retour, sous forme ADN, ils participent à la formation de nouveaux gènes. Par exemple, ici, on peut fabriquer des rétrogènes, donc un gène normal et transcrit, copié en ADN complémentaire, qui va être réintégré dans le chromosome. Il va former un nouveau gène, soit seul, soit en fusion avec un autre, qui va être un nouveau gène dont l'ancêtre n'est pas un gène, mais dont l'ancêtre est un ARN. On estime qu'environ 1% des gènes humains sont de cette origine. Un mécanisme plus important quantitativement, presque 20%, est ce qu'on appelle exon shuffling, c'est-à-dire le fait qu'un morceau de gène venant d'une partie du génome peut être transcrit et se retrouver inséré au sein d'un intron d'un autre gène, où il va s'insérer silencieusement sans faire de mutation, puis ensuite, par simple changement de quelques nucléotides, va pouvoir être incorporé définitivement pour former un nouveau gène, apportant avec lui une séquence nouvelle. On estime que presque 20% des exons, des eucaryotes, ont cette origine. Et enfin, de la même façon, un élément mobile, qui sont des éléments nombreux dans les génomes, peut s'insérer dans un intron et de façon silencieuse, et il peut être finalement incorporé dans la continuité du gène. On estime qu'environ 4% des nouveaux exons du génome humain, ceux qui n'existent pas, chez les chimpanzés, proviennent de ce processus. Je vais vous montrer un exemple spectaculaire de cette dernière chose. C'est le gène RPE21 qui code une ribulose phosphate 3 épimérase chez l'homme. Vous voyez qu'il y a des exons, les boîtes en jaune, il y a des introns, des traits noirs. Vous voyez qu'au milieu du deuxième intron se trouve une petite séquence qui est en fait un élément mobile. C'est ce qu'on appelle une séquence ALU chez l'homme. Il y en a plus de 1 million dans le génome. Et cet élément mobile a sauté dans le génome. Puis, il a été incorporé dans le produit du gène final. Quand on regarde l'évolution des primates, on s'aperçoit que cette insertion de la séquence ALU ne s'est pas produite dans notre ancêtre immédiat. Il s'est produit environ 40 ou 45 millions d'années à cette position ici, et qu'il a fallu encore une vingtaine de millions d'années pour que cette insertion passe d'une simple insertion dans un intron silencieux, sans effet, jusqu'à ce qu'on appelle l'exonisation, c'est-à-dire l'incorporation de cette séquence dans le produit du gène qui s'est produit ici il y a environ une vingtaine de millions d'années. On s'aperçoit que tous ces primates, y compris l'homme, ont cette insertion du produit dans leur produit du gène. Ces autres primates ont dans leur gène la séquence ALU, mais elle n'est pas incorporée, et ces autres primates ici n'ont même pas la séquence ALU. Donc on voit un exemple typique de fabrication de nouveaux gènes par éléments transposables et par l'intermédiaire de ces ARN. Alors un autre point à considérer avant d'aller plus loin, c'est aussi le fait que les gènes se dupliquent et se perdent. Et en fait, j'ai mis ici le portrait de Suzumu Ono, qui en 70 était le premier à attirer l'attention des biologistes sur le fait qu'un gène a une probabilité élevée de se dupliquer, et deux copies pouvant ensuite muter indépendamment et formant des copies de gènes qu'on appelle paralogues. Et ces copies de gènes qu'on appelle paralogues peuvent acquérir de nouvelles fonctions, se spécialiser et contribuer à la redondance du génome. On sait que les génomes peuvent se dupliquer de façon complète, Un très bel exemple est montré ici par un jeune homme de la paramécie. La paramécie a 49 000 gènes, deux fois plus grand que l'homme. Et en fait, ce génome révèle les traces de trois événements successifs de duplication. Donc un premier, ça c'est le cercle extérieur, c'est le génome de la paramécie actuelle. Un ancêtre hypothétique avait un génome deux fois plus petit. Un autre ancêtre hypothétique, un génome encore deux fois plus petit. Et un troisième ici avait environ 6000 gènes. Et cette duplication totale du génome a été reconstituée ici par les auteurs justement du génoscope environ l'année dernière. Les génomes peuvent aussi se dupliquer par segments, c'est pas forcément tout le génome qui se duplique, mais par exemple le génome humain montre plusieurs centaines de segments dupliqués qui totalisent à eux tous 150 millions de nucléotides, soit à peu près 5% du génome. Et ça, c'est une source d'instabilité génomique, puisqu'on a deux copies, on peut ensuite avoir des réarrangements artefactueux qui aboutissent à des maladies. Les gènes peuvent se perdre et des études de l'an dernier entre des trios, entre des enfants normaux et leurs parents, ont montré qu'à chaque naissance, il y avait environ 30 à 50 délétions nouvelles qui étaient formées à chaque génération. Ces délétions pouvant aboutir à des pertes de gènes, et on estime que chacun d'entre nous manque environ 500 à 700 millions de nucléotides dans son génome de façon dispersée aléatoirement, sans que ça ait un effet dramatique, sauf dans des cas particuliers. Ceci pour illustrer le fait que le génome doit être considéré non pas comme un objet stable, mais comme un cliché instantané de processus continuel, de duplication, de perte de gènes au cours des générations successives. Et donc tous les génomes changent continuellement un peu à chaque génération. Si l'on compare numériquement maintenant les éléments du génome que l'on trouve, j'ai pris deux organismes typiques, l'homme d'une part évidemment, et l'alvure, on voit que le nombre de gènes de l'alvure, les gènes qui codent pour les protéines, est un peu moins de 6000 contre 23 000 chez l'homme. On voit que le génome de l'alvure a très peu d'introns contre plus de 100 000 chez l'homme. On voit qu'il y a très peu de pseudogènes contre 25 000 chez l'homme. Il y a plus de pseudogènes que de gènes. Et on voit que les éléments mobiles qui sont rares chez l'alvure sont à plus de 1 million de copies dans le génome humain. Le nombre de familles codées par les différents génomes sont de environ 4 000 espèces de protéines chez l'alvure contre 10 000 chez l'homme. Si l'on représente en termes de couverture du génome les différents éléments, on s'aperçoit que ces génomes expliquent en fait la différence de complexité entre les deux organismes. Chez l'alvure, les exons codants qui sont en bleu représentent à peu près 70% du total. Chez l'homme, le secteur est ici, un peu moins de 2% de notre génome est représenté par les exons codants. Ça, ce sont les fonctions, ça, c'est ce qui va faire les protéines. Un peu moins de 2% de notre génome sert à faire les protéines. Les autres éléments, les introns, les pseudogènes, les éléments mobiles, etc., chez l'alvure représentent presque rien, une toute petite partie du total. Chez l'homme, ils représentent plus des trois quarts du génome. Or, ces éléments sont très importants, parce que ce sont les éléments de régulation qui permettent la régulation des fonctions des gènes, mais c'est aussi les éléments d'évolution, ceux qui vont faire que le génome est dynamique. Et donc, ça veut dire que notre génome à nous est beaucoup plus capable d'évoluer, beaucoup plus capable de se complexifier que n'est le génome, par exemple, d'une levure qui est ici. Ce n'est pas simplement que le nombre de fonctions est plus élevé, il est à peine plus élevé, deux fois plus on va dire, mais simplement il est beaucoup plus capable de se complexifier et d'évoluer avec le temps. Alors, on voudrait avoir des outils pour déterminer ces fonctions. Et ce que l'on appelle la génomique fonctionnelle est une entreprise qui consiste à dire on voudrait connaître non pas les fonctions de quelques gènes, mais les fonctions de tous les gènes, si possible, et comprendre leurs interactions, de façon à être à la fin capable de prédire les phénotypes, c'est-à-dire l'apparence de l'organisme, à partir des génotypes que l'on détermine dans nos centres de séquençage. Alors je vais vous montrer quelques stratégies expérimentales qui sont à notre disposition pour arriver à ce genre de choses. Il faut savoir d'emblée que, alors que le séquençage lui-même est très automatisé, très robotisé, très identique d'un point à un autre, L'analyse fonctionnelle est quelque part un travail d'artisan. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de patience où on va faire cas par cas, essayer de déterminer les fonctions de quelques objets et on va essayer d'en faire ensuite la synthèse. On dispose par exemple de ce que l'on appelle des puces à ADN, sur des lames de verre comme indiqué ici, sur lesquelles on dépose des copies d'ADN de tous les gènes de l'organisme. Et puis ensuite, par des processus d'hybridation moléculaire, on va pouvoir par exemple quantifier les ARN correspondants dans deux souches ou dans deux conditions ou dans deux organismes différents. On va pouvoir les quantifier les uns par rapport aux autres. On va donc ensuite calculer les quantités relatives des différents ARN présents à un temps T dans une expérience. Il existe deux principes pour interpréter ces résultats. Le premier principe, c'est que l'expression des gènes dans différentes conditions doit être révélatrice de leur fonction. Et on a montré ici que, par exemple, ici c'est une levure, mais dans une condition 1 ou une condition 2, on va avoir des gènes qui sont plus exprimés dans la condition 1 et d'autres qui sont plus exprimés dans la condition 2. Et il est intuitif de penser que si un gène est plus exprimé dans la condition 1, c'est parce que sa fonction va être importante pour la condition 1, ce que l'on peut ensuite vérifier. Et la même chose pour la condition 2. Le deuxième principe, c'est que les gènes qui participent à une même fonction, les différents gènes d'une cellule, doivent avoir des expressions corrélées, c'est ce qu'on attend. Donc on fait par exemple ici, ce que vous avez ici, c'est la liste de tous les gènes de la levure. Ce que vous avez ici, c'est une centaine de conditions différentes. Et on cherche par un traitement mathématique à faire un arbre de classification de ces différents gènes. Et par exemple, on va faire ressortir un groupe de gènes dont les expressions sont corrélées. Et dans ce groupe de gènes, on va donc conclure qu'ils doivent avoir participé au même type de fonction cellulaire. On est ici dans le schéma mental, un gène donne une fonction par l'intermédiaire d'un ARN. En réalité, les complexes fonctionnels dans le monde vivant sont souvent des mélanges de plusieurs protéines, souvent avec des ARN, ici c'est le ribosome pour illustrer, c'est plusieurs molécules d'ARN, nombreuses molécules de protéines. Et donc, pour avoir un complexe fonctionnel, et ce complexe fonctionnel est unique, c'est le ribosome qui fait la synthèse des protéines, il faut de nombreux gènes. Ici, il faudra entre 80 et 100 gènes pour faire un ribosome. Donc on arrive à cette idée qu'on n'a plus un gène, une fonction, mais de nombreux gènes vers un complexe fonctionnel. Donc ce que l'on veut essayer de faire apparaître, c'est quels sont tous les gènes qui interviennent dans la formation de ce complexe, comment ils interviennent, est-ce qu'ils sont remplaçables, etc. Bien. Alors il existe plusieurs méthodes pour identifier les interactions entre les protéines. Par exemple, une méthode très classique, la purification biochimique des complexes. Maintenant, on peut aisément marquer les gènes par des étiquettes moléculaires pour faciliter les choses, puis traiter l'ensemble par la spectrographie de masse. Et à la fin, on aboutit à des réseaux, comme celui qui est illustré ici, qui indiquent, c'est très peu lisible, mais qui indiquent tous les gènes que l'on voit ici, et les liens fonctionnels qui se font entre ces produits des différents gènes pour une fonction particulière. On a aussi une possibilité de mesurer les interactions binaires de protéines 2 à 2 par des artifices génétiques qu'on appelle du nom de double hybride dans le jargon. En gros, tout se passe au sein d'une cellule de levure qui sert ici de système expérimental. Et en gros, si deux protéines interagissent l'une avec l'autre, elles vont permettre par un système artificiel, elles vont permettre d'allumer un gène rapporteur. Et si ces deux protéines n'interagissent pas, ce gène ne sera pas allumé. Et on voit ici, par exemple, que le produit du gène A interagit avec I, mais n'interagit pas avec J ou K. Le produit du gène B interagit avec J, etc. Et donc on construit des réseaux de proche en proche, des réseaux d'interaction de protéines 2 à 2 et des réseaux issus des complexes protéiques. Et on essaye, à partir de ça, de reconstituer la fonction de l'ensemble. Chez la levure, on dispose aussi de collections complètes de mutants. Des collections de délétions avec marquage moléculaire. On a ce qu'on appelle un barcoding. Donc toutes nos levures sont marquées un peu comme dans les supermarchés. Et on peut les suivre lorsqu'on les met dans des mélanges. On peut suivre leur devenir dans des mélanges par des simples artifices moléculaires. On a des collections de gènes surexprimés. On a des collections qui rendent les protéines fluorescentes. On a ici une cellule de levure où on voit dans le microscope exactement à quel endroit de la cellule se place telle protéine qui a été marquée par cet artifice fluorescent. Bon. Et finalement, il existe un crible génétique qu'on appelle phénotype synthétique, qui est basé sur le raisonnement suivant. Si deux gènes participent à la même fonction, alors on va pouvoir révéler leur existence en fabriquant des mutations simultanément dans les deux gènes. En quelque sorte, c'est comme si vous aviez une maison avec un mur de briques. Si vous enlevez une brique, le mur tient toujours. Si vous enlevez l'autre brique, le mur tient toujours. Si vous enlevez les deux briques à la fois, le mur s'écroule. Ça revient à ce raisonnement. Et donc ici, on a des mutants dans tous les gènes, des mutants dans tous les gènes. Ils sont associés deux à deux et vous voyez que la présence du mutant, la maison ne tient toujours, la présence des deux mutants, la maison ne tient plus, elle s'écroule. Et donc de cette façon-là, on va identifier des réseaux d'interaction fonctionnelle entre les gènes. Bon, à la fin, c'est simplement la synthèse de toutes ces approches, donc les ARN, les interactions des produits des gènes, la localisation cellulaire, l'interaction génétique. C'est la synthèse de toutes ces approches qui nous amène vers la connaissance complète du fonctionnement de la cellule. Il y a une dimension supplémentaire dont il faut tenir compte, qui est la dimension comparative, c'est-à-dire en fait que l'on va faire l'ensemble de ces travaux, non pas pour une levure, mais pour plusieurs. On va ensuite comparer ce qui se passe au cours de l'évolution dans différentes espèces de levures. Alors, j'ai pris l'exemple de l'élevure parce que c'est l'exemple le plus avancé actuellement parmi tous les eucaryotes, mais évidemment, il y a d'autres espèces pour lesquelles on peut faire la même chose. Toujours chez cette levure, grâce à l'ensemble de tous ces travaux, on voit qu'aujourd'hui, on connaît les fonctions d'à peu près 4500 gènes sur les 5700 qui existent. Donc vous voyez qu'en fait, la partie connue est une partie tout à fait significative et que l'on s'achemine petit à petit vers la capacité de prédire un phénotype à partir de la séquence et de replacer l'ensemble de ces connaissances dans les mécanismes de l'évolution. Je dis on s'achemine vers cette capacité, on n'est pas aujourd'hui à cette capacité, mais au fur et à mesure où on détermine de plus en plus, on a de plus en plus de connaissances sur les fonctions de ces gènes, on s'approche de cette possibilité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vous ai dit qu'on avait réalisé dès les années 70 l'importance des ARN. En fait, avec les projets génome, depuis quelques années, on s'est aperçu que l'importance des ARN était encore sous-estimée. Ces ARN sont importants pour l'évolution, pour la formation de nouveaux gènes, ils sont importants pour l'épigénèse, ils sont importants pour des mécanismes de régulation, et on sait qu'à partir de l'ADN, on a des transcriptions multiples qui aboutissent à ces ARN. Donc en quelque sorte, aujourd'hui, par rapport à 1953, on avait l'ADN et les protéines, et aujourd'hui on a l'ARN, et d'un côté l'ADN et de l'autre côté les protéines. Et ceci change complètement notre vision de la cellule, la vision d'un fonctionnement de la cellule, la vision de qu'est-ce que c'est la vie. Dans le schéma classique, on a un gène, une fonction, le génome séquencé, les fonctions étudiées. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est étudier le génome fonctionnel, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire en fait l'ensemble de toutes les populations des molécules d'ARN, qui sont très nombreuses, très variées à partir d'un génome et qui sont en perpétuelle modification. Ceci a été illustré par un premier projet qui s'appelle le projet ENCODE, qui est un consortium international qui consistait à dire on va étudier 1% et 1% seulement du génome humain et on va essayer de savoir tout sur ce 1% du génome humain. Ça veut dire qu'on connaît les séquences, l'ADN, on connaît les transcrits primaires, on connaît les transcrits épicés, on connaît les produits fonctionnels, et de là, on va voir comment fonctionne l'ensemble de ce 1% des gènes du génome humain. Et sur cet exemple qui est ici, on voit que La complexité des ARN est telle, la complexité des réarrangements des ARN est telle que la notion même de gène va s'évanouir. Par exemple, sur ce morceau d'ADN, on a 5 boîtes, A, B, C, D, E. Il est difficile ou impossible de dire où sont les gènes. Est-ce qu'il y a un gène? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 5? Lesquels ils sont? On voit que dans les transcrits primaires, A est associé à B, associé à C, D est associé à E, mais on voit aussi un transcrit tel que X est associé à Y, qui sont les correspondants à ces régions. On voit dans les transcrits épicés que A est associé à B, A à C, B à C, D n'est jamais associé à E, et on voit que X est associé à Y. On voit dans les protéines, une protéine AB, AC, BC, on voit une protéine D, une protéine E. Donc la conclusion de ça, c'est qu'ici, il y a non pas 5 gènes A, B, C, D, mais un gène A, B, C, un gène D, un gène E, et un autre gène fait de X et Y qui chevauche à la fois le A et le E. Vous voyez que cette notion de gène devient beaucoup plus complexe que la notion initiale, un gène, une fonction. Ici, il y en a toute une région du chromosome qui porte en réalité 5 gènes fonctionnels, difficiles à identifier, sauf si on a toute l'information sur ce que sont les transcrits, les produits des gènes, etc. Et donc, on a cet enchevêtrement fonctionnel entre les éléments de séquence que l'on voit dans l'ADN et les différents types de fonctions que l'on a à la sortie. Donc, on n'en est plus à la relation un gène, une fonction. On a la relation à multiples gènes, une fonction, et en plus, multiples gènes pouvant eux-mêmes être, disons, enchevêtrés, interpénétrés les uns avec les autres. Les nouvelles techniques de séquençage changent complètement la donne. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent était fait avec ce que l'on appelle la technique de Sanger, du nom de Fred Sanger, qui l'a mise au point il y a une trentaine d'années. Et ce sont des techniques qui permettent de faire des lectures d'environ 700 nucléotides, des éléments de séquence, et environ une centaine par expérience. Ça veut dire que chaque expérience, chaque tour, chaque run, comme on dit dans le jargon, nous produit environ 70 000 nucléotides. Plusieurs révolutions technologiques ont eu lieu ces dernières années. La première est ce qu'on appelle le pyroséquençage, qui est un ensemble de réactions qui ont été couplées avec des micro-micelles qui vont ensuite dans des micro-puits. En quelque sorte, c'est une sorte de mayonnaise sur lesquelles on fait les réactions de séquences. Ces technologies permettent de faire des lectures d'environ 250 nucléotides, donc c'est plus petit, c'est moins bien. Mais comme on en fait 400 000 à la fois, on obtient à chaque expérience 100 millions de nucléotides au lieu de 70 000. Et ceci pour un coût par nucléotide qui est déjà divisé par 10. Une autre modification a été le séquençage en phase solide qui produit des fragments d'ADN encore plus petits, 25, 35 mères, donc cette fois-ci des tout petites lectures, mais dans des systèmes expérimentaux dans lesquels on peut avoir à la fois 40 millions, voire 80 millions de séquences en parallèle. Ça veut dire que chaque expérience produit 1 gigabase, donc 1000 millions de paires de bases, ou 2000 millions de paires de bases, et ceci pour des coûts qui sont encore divisés par 10. Et finalement, par la combinaison de technologies différentes, avec des puces, des séquençages nouvelle génération, etc., on vient aisément maintenant au séquençage des individus et des populations entières, par exemple avec les appareils de ce type-là, et avec ces technologies, on peut avoir la séquence d'une seule personne, pour un coût de quelques centaines ou milliers d'euros au maximum, en sélectionnant dans le génome de cette personne les parties qui nous concernent. Donc ceci change complètement la vision de ce qu'est la génomique actuelle. Donc quelques grands projets qui sont en cours ou annoncés, tenant compte de ces changements techniques. C'est par exemple l'encyclopédie des DNA éléments, le programme ENCODE que j'ai déjà mentionné. Cette fois-ci, élargi non pas au 1% du génome humain, ça c'est déjà fait, mais à l'ensemble du génome humain pour identifier tous les éléments fonctionnels du génome humain. Il faut noter que ce programme est piloté par des universités américaines en relation avec le programme génome américain. Un autre programme qui s'appelle 1000 génomes, c'est identifier justement le patrimoine génétique pour avoir le polymorphisme génétique de la population humaine en prenant 1000 individus. Cette fois-ci, c'est un consortium international essentiellement américain, anglais et chinois. Un autre programme est l'origine de la multicellularité, qui est un programme aussi américain, identifier quels sont les gènes et les complexes qui sont impliqués dans les différentes apparitions de la forme multicellulaire de la vie, les animaux, les champignons, etc. Et donc, de nombreux organismes sont en cours de séquençage pour identifier ces choses. Un programme très important, c'est celui du microbiome humain. Il y a plusieurs centres de séquençage américains. Il y a aussi une partie de ce programme en France. Et l'idée est d'identifier toute la flore microbienne commensale de l'homme. En fait, il y a plus de cellules microbiennes dans le corps humain qu'il y a de cellules humaines en nombre. Il y a plus de microbes que nous avons de cellules, en particulier dans l'intestin, évidemment. Mais il faut savoir qu'on ne sait pas grand-chose de cette flore, voire quasiment rien, et que la diversité de cette flore serait très intéressante à connaître. Un programme d'encyclopédie génomique des bactéries et des archées. Il s'agit ici d'étudier toutes les branches de la phylogénie de l'arbre de la vie du monde. À nouveau, c'est un programme américain. Et enfin, un programme international, cette fois-ci 130 organisations, 43 pays, qui s'appelle le Barcoding of Life, qui consiste à donner une signature moléculaire standard à chaque espèce identifiée, de façon à reconnaître les individus de l'espèce par une simple expérience moléculaire. Ce ne sont que des exemples, il y en a beaucoup d'autres, et on peut faire beaucoup d'autres choses. Et pour terminer, je voudrais dire que, donc, qu'est-ce que la vie ? La vie, ce sont les principes physico-chimiques de l'univers, plus l'hérédité, c'est-à-dire l'histoire et la fonction. Et si je me prends ma petite souris ici, avec son génome, tout ce que l'on sait de fonctionnement à l'intérieur de ces cellules, ou tout ce que l'on va savoir rapidement du fonctionnement de ces cellules, et si je le réintègre dans ce qu'est l'histoire du monde vivant, je pense qu'on aura une compréhension nouvelle de la vie qui nous servira ensuite reposer les questions de façon beaucoup, beaucoup plus rationnelle qu'elles n'ont été posées jusqu'à présent. Et je vous remercie de votre attention.
Merci Bernard Dujon. Nous allons passer tout de suite aux questions. Première, est-ce qu'on a des micros là ? Oui. C'est tout devant. On va commencer puisqu'on a trois questions là.
Est-ce que ces différentes études... Est-ce que ces différentes études ont souscrit à la loi de Haeckel, à savoir que l'ontogenèse reproduit la phylogénèse ?
Oui, alors, c'était la loi, c'était un peu l'arbre phylogénétique d'Ernst Haeckel que j'ai montré, était un peu dans cette idée-là. Oui et non, le problème n'est pas directement approché de cette façon, si vous voulez. La reclassification du monde vivant va en fait renforcer cette loi, si vous voulez. On retrouve les éléments qui vont dans ce sens. Par contre, les biologistes traditionnels avaient, lorsqu'ils avaient des développements embryonnaires, ils avaient classifié correctement les organismes. Les lophotrochozoaires sont différents des exisozoaires. On savait ça parce qu'on avait le développement embryonnaire, les larves, etc. Les surprises viennent des mutations ou des changements qui sont très importants. Par exemple, les champignons sont des protozoaires flagellés, mais ils ont perdu le flagelle. Et ça, évidemment, l'observation, on ne peut pas le voir. On le voit uniquement quand on va regarder les gènes, d'accord ? Puisqu'il n'y a plus de flagelle, donc on ne peut pas voir le flagelle, forcément. Donc on en rajoute... Les choses qui étaient classées correctement restent classées correctement. L'ontogénèse continue à être correctement faite. Les choses qui ont été mal classées, c'est parce qu'il y avait des changements très importants dans leur ontogénèse, comme par exemple le perte du flagelle, si vous voulez, qui avait obscurci, enfin qui a rendu impossible le travail correctement précédemment, si vous voulez. C'est ce genre de choses que l'on voit dans les génomes.
Merci. Vous avez résumé un peu le problème de qu'est-ce que la vie en disant que c'est de la physico-chimie plus de l'hérédité. Alors je voudrais savoir si vous êtes en accord avec cette phrase, je dirais peut-être d'un de vos maîtres, en tous les cas de l'Institut Pasteur, qui est François Jacob, qui disait « la biologie bricole ».
Oui.
Vous comprenez, votre exposé donne a essayé de représenter la complexité de ce qu'est la vie disons, sans trop détailler, par exemple, la complexité des édifices moléculaires qui sont le résultat de cette hérédité. Et d'autre part, ces édifices moléculaires ont des propriétés physico-chimiques tout à fait nouvelles et spéciales à la vie. En tous les cas, je reviens à cette phrase de François Jacob, la biologie bricole.
La vie bricole énormément. Quand on regarde les génomes, on trouve ce que j'avais montré avec un exemple, le gène RPE21, si vous voulez, c'est un bricolage. On va trouver au sein de ce gène normal, on va trouver un élément surnuméraire qui est dû à un accident et qui a servi à construire une nouvelle propriété, nouveau type de fonction. Donc le bricolage, là, il est incessant. La vie bricole à tous les niveaux. Ce que l'on essaye de faire, c'est de... tout n'est pas possible. On essaye simplement de caractériser les principes sous-jacents au bricolage. On sait que ce bricolage a été possible dans ce cas particulier par l'arrivée d'un élément transposable. Dans d'autres cas, ça sera d'autres choses. Ce qu'on essaye de faire, et on commence à y arriver, c'est avoir la liste de tous les outils possibles du bricolage, en quelque sorte, qui permettent effectivement de bricoler, mais en ayant un certain nombre limité de possibilités d'outils pour faire ce bricolage. Tous les bricolages ne sont pas possibles. D'accord ? Donc c'est ça qu'on essaye de faire apparaître. Il est évident qu'à chaque instant T, beaucoup de choses sont simplement des accidents issus d'un bricolage antérieur. C'est tout à fait clair. Mais les accidents n'ont pas de finalité. Les accidents sont des accidents. Ils peuvent être utilisés a posteriori comme étant quelque chose d'avantageux. Je vais vous donner un exemple, un peu compliqué, mais chez la levure, une des synthétases, c'est-à-dire les enzymes qui chargent les tRNA, les ARN de transfert pour parler en français, mitochondriale, cette enzyme est thermosensible. Ça ne marche pas à haute température. Et la levure s'est adaptée, parce que dans les cuves, ça monte très haut la température, dans les cuves de vin. Et la levure s'est adaptée à ça, en fait, par un accident, un bricolage, qui est un rajout d'un élément supplémentaire, qui fait que cette enzyme, c'est pas qu'il devient actif normalement sur son substrat haute température, c'est qu'il change de substrat, il utilise autre chose. Et à ce moment-là, ça remarche. D'accord ? Donc on a constamment des observations de ce type qui sont effectivement, la somme de l'ensemble a l'air très bricolée, mais les outils du bricoleur, en quelque sorte, ne sont pas infinis. C'est ça que je veux dire.
Oui, pourriez-vous dire quelques mots de l'épigénétique ? Je suis là ?
Oui.
Pourriez-vous dire quelques mots de l'épigénétique qui, à elle seule, fait l'objet d'une discipline ?
Alors, l'épigénétique, d'abord, c'est un mot magique. Dans l'épigénétique, il y a génétique. L'épigénétique, tous les phénomènes épigénétiques sont complètement déterminés génétiquement, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes s'imaginent en voyant le mot. Il s'agit de phénomènes dans lesquels des états possibles du génome, en général deux, on va dire ouverts et fermés pour la chromatine, ces états métastables existent et vont rester dans un état 1 ou dans un état 2 pour une durée qui est plus longue que la durée de génération. Ça veut dire que un organisme va hériter d'une chromatine, on va dire, ou d'un état qui est, on va dire, éteint, parce que son ancêtre était éteint, alors qu'il pourrait être ouvert, enfin allumé ou éteint, si vous voulez, et ceci sans altérer le message génétique. Alors il y a de nombreuses façons de faire ça. Une des façons les plus fréquentes, c'est de modifier l'état chimique de la chromatine. Donc les histones sont acétylées, elles sont méthylées, etc. Elles sont modifiées de différentes façons. Et ceci change la façon dont la chromatine peut être fonctionnelle. D'accord. Donc une chromatine méthylée va être non fonctionnelle, par exemple. Il se trouve que dans ce passage d'un état à l'autre, interviennent parfois l'expression d'éléments qui sont au-delà de la zone qui nous concerne. Donc on va rendre ouvert ou fermé une zone du chromosome en fonction de l'expression de gènes qui sont ailleurs, comme par exemple des éléments transposables. Ça existe dans le monde végétal. Ça veut dire qu'on va avoir une lignée de plantes dans lesquelles ces gènes vont constamment éteints, et la même lignée de plantes dans lesquelles ces gènes vont être constamment allumés, alors que ce sont les mêmes gènes. D'accord, mais simplement, ils sont dans un état 1 ou dans un état 2, et on peut passer de 1 à 2 en changeant l'expression d'un autre élément qui est au-delà. Je ne sais pas si ça répond, si ça répond à votre question. Il n'y a rien dans l'épigénétique qui ne soit pas entièrement codé dans le génome. C'est ça que je veux dire. D'accord. Ah bon? Ah bon?
Il y aura une conférence sur l'épigénétique hein, dans la série.
On aura peut-être... Ma question est la suivante. Dans l'un de vos derniers transparents, vous avez présenté un certain nombre de programmes qui sont en cours. Il y en a deux. Un qui porte sur un millier de génomes relatifs à la même espèce, et puis le dernier que vous avez cité, qui parlait de la signature moléculaire d'une espèce. Est-ce que vous pouvez commenter et dire quelle différence il y a entre les deux?
Alors, le millier de génome, il s'agit de 1000 hommes, enfin hommes et femmes. Hein. Il s'agit de 1000 individus humains. L'idée étant d'avoir le polymorphisme humain de façon à affiner la carte génétique vers quelque chose qui soit plus fonctionnel. C'est ça l'idée pour ces 1000 individus. Le barcoding of life, donc cette caractérisation des espèces, consiste à séquencer un petit segment de génome, en général de 5 à 10 individus par espèce, et de trouver une signature unique commune à tous ces individus et différente de ceux des autres espèces, de façon à ensuite donner à l'espèce non plus un nom latin ou grec, enfin elle l'aura quand même, mais en plus un code moléculaire qui est la séquence de ce gène. Donc, ce sont deux choses complètement différentes dans leur but. Le problème est que la notion d'espèce est intuitive, elle est très utile et vraisemblablement, au fond des choses, elle n'existe pas. Quand on regarde vraiment au fond des choses, surtout pour les micro-organismes, la notion même d'espèce s'évanouit. Quand on regarde un tout petit peu les génomes, les bactéries, par exemple, ont une sorte de cœur génome qui représente 80-90% de l'ensemble, et puis elles ont 10 ou 20% qui sont des éléments qu'elles échangent avec toutes les autres espèces bactériennes de l'environnement. Donc qu'est-ce que c'est une espèce quand on échange une fraction aussi importante de son génome avec ses voisins? Alors les animaux font beaucoup moins de ça, donc c'est plus facile de définir les espèces, et souvent les animaux ont des barrières de fertilité qui font que les populations sont isolées les unes des autres. C'est pas toujours le cas, par exemple, pour les micro-organismes. J'ai des levures qui sont aussi éloignées que le serait un poisson et un humain, et qui se croisent entre elles, qui font de la sexualité entre elles, alors qu'elles sont complètement différentes. Hein, d'accord. Donc la notion d'espèce est difficile à délimiter, et probablement à la fin, on s'apercevra que comme la notion de gène, c'est quelque chose d'extrêmement complexe.
Tout en haut.
On a pu voir dans votre exposé que vous parliez des virus. En quoi les virus sont vivants, en fait? En quoi est-ce qu'on peut considérer que les virus sont vivants? En quoi les virus sont-ils des vivants?
Les virus sont en général, lorsqu'ils sont isolés, ils sont inertes. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun des étapes du métabolisme, ils ne se reproduisent pas, ils sont inertes, ce sont des objets inertes quand ils sont isolés. Les virus ne deviennent vivants qu'à partir du moment où ils sont au sein d'une cellule ou d'un organisme, et ils utilisent l'ensemble de la machinerie de la cellule ou de l'organisme. Donc ça devient une question un peu sémantique, parce que le même objet... Mais si vous voulez, l'ADN purifié dans un tube à essai, il est aussi inerte. Tant qu'il n'est pas remis dans sa cellule, il est l'équivalent de mon virus. Pourtant, et ça a été fait, si je prends cet ADN et si je le remets dans une cellule, on réobtient un organisme vivant. Mais il y a même eu la synthèse complète d'une bactérie. Enfin, une bactérie a été fabriquée totalement artificiellement, justement en remettant dans une cellule petit à petit les éléments de chromosome de cette bactérie. Donc ça veut dire que cet ADN qui était d'origine chimique, il n'était pas vivant à l'origine. On l'a mis dans la cellule et il est devenu vivant. Donc les virus sont dans le même état. Ils ont un état inerte et un état actif qui, lui, a toutes les propriétés de la vie. Ils se reproduisent dans cette cellule selon les règles du monde vivant.
Et on va prendre une dernière question, monsieur.
Bon, mais comment expliquez-vous l'unicité du mécanisme de la vie? C'est un mécanisme assez compliqué. On pourra en imaginer plusieurs. Or, il n'y en a qu'un. Tous les mécanismes que vous avez montrés sont les mêmes, que ce soit une levure, un être humain, une bactérie. Les mécanismes de base sont les mêmes.
Oui, alors le système génétique des organismes actuels est le même, mais ça c'est simplement parce que en fait ils ont un ancêtre commun à ce niveau-là. Il n'est pas du tout certain que ce soit la seule forme de la vie que la Terre ait jamais connue. C'est simplement ceux qui existent aujourd'hui descendent de cette forme particulière. Il a pu en avoir d'autres. Par exemple, les organismes vivants utilisent le carbone 12, ils utilisent les acides aminés L et pas les acides aminés D. On pourrait imaginer que ce soit exactement l'inverse, le carbone 13 et les acides aminés D, ça pourrait marcher aussi, mais ce n'est pas ce qui a été choisi. Et à partir du moment où on est dans une voie, il n'y a plus la place pour expérimenter le reste, puisque simplement on recopie encore et toujours la même chose. Si vous regardez les échelles de temps, les premiers fossiles ont 3 milliards et demi d'années à peu près, enfin les stromatolites ont 3 milliards et demi d'années. Il s'est passé jusqu'aux premières cellules visibles, il s'est passé encore pratiquement 2 milliards d'années. Donc le temps passé dans ce mélange était considérable. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce mélange? Moi, je ne saurais pas dire, c'est un peu difficile. À quelle date est apparu l'ADN n'est pas non plus une chose complètement évidente. L'ADN est clairement une mutation issue de l'ARN, hein, c'est un désoxyribo à la place du ribo. Il est clairement plus tardif. Est-ce que c'est apparu une fois, plusieurs fois, personne ne sait. Et quand, personne ne sait. Le code génétique que l'on utilise est quasi universel, il ne l'est pas tout à fait en fait, mais il est quasi universel, ce qui veut dire aussi que tous ces organismes ont hérité au moins de cet élément en commun à une origine, mais à quelle date, c'est très difficile à dire. Est-ce qu'il y en avait beaucoup d'autres à un moment? C'est tout à fait possible. Le code génétique est particulièrement étrange dans sa structure. On peut imaginer qu'il y en avait beaucoup d'autres en compétition à un moment donné.
Bien, Bernard Dujon, nous vous remercions beaucoup. Demain, la conférence sera de Hugues Roescrolius sur Déconner les génomes entre biologie et informatique. Merci et bonsoir.